Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je voudrais commencer par dire que c'est une grande joie pour moi d'introduire ce colloque qui nous a demandé, à mes amis et à moi, beaucoup de travail et de patience pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais aussi joindre mes remerciements à ceux que le professeur Picard a prononcé tout à l'heure. D'abord, peut-être remercier en priorité tous nos amis étrangers qui sont venus d'assez loin, malgré les difficultés qui ont pu surgir dans leurs différents pays. Et je me réjouis que personne n'ait été obligé de différer ou d'annuler sa venue. Donc je voulais les en remercier tout particulièrement. Je voudrais aussi remercier, bien sûr, les autres intervenants venant d'un peu moins loin. Et avec peut-être une adresse particulière à notre ami et collègue Jacques Caillos, qui a la redoutable tâche de faire le rapport de synthèse. Vous verrez, en général, lorsque Jacques termine son rapport de synthèse, il nous suggère qu'il y aurait d'autres choses à faire par la suite. Et donc, il est possible que ce colloque se termine sur l'invitation d'en faire un autre. Je ne sais pas s'il m'appartiendra d'en coordonner l'organisation comme celui-ci, mais je pense que son rapport va sans doute susciter quelques interrogations et en tout cas il y aura peut-être des propositions nouvelles de travail. Je voudrais remercier aussi le comité d'organisation. Tout à l'heure, il a été rappelé sa composition, je ne vais pas y revenir. Qui a beaucoup travaillé, qui a été d'ailleurs un petit peu renforcé par les étudiants et doctorants qui nous ont rejoints et qui ont permis que la journée d'aujourd'hui et celle de demain se passent bien. Et puis, je voudrais également remercier l'IRGI, ses directeurs. Oui, je pense que Pierre-Yves Monjal m'a dit qu'il passerait peut-être. Donc, j'ai bien compris que ce ne serait pas aujourd'hui, mais ce sera peut-être demain. Remercier aussi, bien sûr, le secrétariat de l'IRGI, comme on dit aujourd'hui. Bon. Madame Véronique Picard, Madame Goumet, qui ont beaucoup travaillé en amont pour permettre justement que toutes ces personnes qui viennent de loin puissent être ici aujourd'hui. Puis remercier aussi des gens qu'on oublie parfois, et c'est un tort, Monsieur Xavier Houillet, qui est directeur du service documentation de la faculté, qui a beaucoup travaillé pour ce colloque, ainsi que Monsieur Philippe Dumas, du service audiovisuel, qui lui aussi officie pour tous ces colloques, dont on a rappelé tout à l'heure, hein, qu'il y en avait quand même un certain nombre dans l'année. Alors, afin de ne pas être trop long, je voudrais simplement rappeler la genèse de notre colloque, peut-être répondre à certaines interrogations de mon collègue et ami Étienne Picard dans son introduction, et puis exposer brièvement sa problématique, en fond, qui n'est pas simple. Alors, ce colloque, vous le savez, est en phase avec l'actualité, une actualité plus ou moins brûlante, au moment où, à quelques jours près, le mouvement dit des Gilets jaunes fête son anniversaire, ou a fêté son anniversaire. Et on se souvient de ces foules, on a vu beaucoup d'images évidemment de ces foules du samedi après-midi en général, avec les débordements incontrôlés, les manifestations de colère, même de violence à l'égard des symboles matériels du pouvoir, de l'État. On oublie quelquefois qu'ils s'inscrivent aussi, enfin que ces manifestations s'inscrivent aussi dans un courant qui est déjà ancien de contestation de la démocratie représentative. Et c'est vrai que un certain nombre de ces participants aux manifestations du samedi revendiquaient la démocratie directe. Bon, nous autres constitutionnalistes, quelquefois, on dirait plutôt semi-directe, mais bon, nous n'allons pas rentrer dans tous les détails. Je pense à certains amis avec lesquels j'ai travaillé sur ces questions autrefois, revendiquaient la démocratie participative, voire même la démocratie continue, comme notre collègue Dominique Rousseau l'a dit. Alors, on a bien noté, parmi ceux qui ont un peu théorisé ces aspirations, la volonté de promouvoir le référendum d'initiative citoyenne, une innovation pour nous, du moins terminologique. Nous, on parle plutôt de référendum d'initiative populaire, mais le mot citoyen, qui était un substantif, est devenu un adjectif avec le temps. Pourquoi pas ? Ce qu'on appelle le RIC, hein, dans le jargon gilet jaune. Et c'est vrai que certains politistes grenoblois ont écrit un petit livre qui s'intitule « Le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous ». Je sens qu'ils ont voulu dire « pour les nuls », mais qu'ils ont un peu reculé devant le travail à effectuer. Bon, de même que vous le savez, il y a aussi une tentative de déclencher un référendum d'initiative partagée, bon, qui existe effectivement dans nos institutions. Il faut recueillir un certain nombre de signatures qui dépassent les 4 millions. Pour l'instant, je crois qu'on en est à 1 million et il est possible que nous n'arrivions pas à atteindre les 4 millions de signatures exigées. Alors, au-delà de ces aspirations, je dirais, à la démocratie participative, il y avait bien une revendication minimale qui était de s'en prendre aux responsables publics. Soit pour demander tout simplement leur départ, hein, vous savez qu'il y a eu un mouvement, un courant un peu mondial qu'on appelait le dégagisme. Vous voulez absolument que tous les responsables en fonction s'en aillent. Mais au minimum, il s'agissait très souvent de leur demander de rendre des comptes, parce que le responsable promet et il ne tient pas. Alors, je vous parle de tout ça parce que notre démarche n'a pas été de traiter du mouvement des gilets jaunes. On n'a pas voulu surfer sur la vague. Donc, notre colloque n'est pas un colloque gilets jaunes. Mais on ne peut pas, évidemment, ignorer ce mouvement dans une étude scientifique interdisciplinaire comme la nôtre pendant ces 2 jours. Alors, il y a une raison, si vous voulez, à ça, c'est que notre réflexion était bien antérieure, avant même que les gilets jaunes existent. Ça remonte à peu près au milieu de l'année 2018, du moins pour la formalisation du projet tel qu'il est parvenu jusqu'à nous. Mais en réalité, tout cela date de la fin de l'année 2014, puisque ce projet de colloque se présente en partie comme le prolongement d'un colloque qui s'est déroulé les 20 et 21 novembre 2014 hein, et qui s'intitulait « De la responsabilité à la responsabilisation des fonctionnaires », dont les actes ont été publiés au JCPA du 9 mars 2015, pour être précis, et à la Revue internationale de droit comparé pour les contributions de nos collègues étrangers, d'ailleurs grâce aux bons soins de notre collègue et ami Étienne Picard, que je remercie à nouveau. Alors, ce colloque de 2014 n'avait pas pu traiter toutes les questions, et en particulier n'avait pas pu traiter de la responsabilité pénale des agents publics. Or, le rapporteur, le professeur Jacques Caillas, ici présent justement, avait souligné que cette question était en arrière-plan dans toutes les communications, et que même elle pouvait structurer implicitement toute la question de la responsabilité. Je me permets de le citer. Voici ce qu'avait dit Jacques. Absent de l'affiche, le pénal s'est imposé dans le discours. Le droit pénal semble avoir plus ou moins fonctionné comme référent implicite, comme s'il produisait des modèles ou catégories à partir desquels s'ordonne l'ensemble que compose le droit de la responsabilité des fonctionnaires. Donc je vous disais bien qu'il y avait là une invite à faire quelque chose d'autre. Et effectivement, les organisateurs de ce colloque avait décidé finalement de rétablir le pénal dans le registre de l'explicite, puisqu'il était jusque-là à l'arrière-plan. Et donc, au fil de nos réflexions, que nous avons commencé assez tôt, mais ça a pris du temps, comme vous le voyez, l'idée a été évoquée d'opérer un élargissement aux élus, qui n'avaient pas été étudiés à ce moment-là, et du point de vue matériel, peut-être d'élargir à la déontologie. Ouais, cela nous avait été quand même un petit peu incité, enfin nous avions été un peu incités à le faire en raison de certaines lois qui venaient d'être promulguées. La loi du 20 avril 2016 relative justement à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, etc. Il y a même une loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. Donc toutes ces questions nous ont incité à nous dire que peut-être il faudrait traiter de certaines infractions, soit des infractions comme le délit de favoritisme en matière de marché public, par exemple, ou d'autres infractions peut-être plus spéciales. Bon, on sait que depuis, une loi est intervenue sur la transformation de la fonction publique, le 6 août 2019, avec son cortège de décrets et d'ordonnances qui sont pour la plupart encore en cours de préparation, en cours d'édiction, et qui reprend aussi certaines questions relatives à la déontologie. Alors, ce premier courant s'est enrichi de la rencontre d'un autre courant qui était incarné par d'autres collègues qui, eux, voulaient traiter d'autres questions, la question des immunités, mais évidemment, tout cela peut être attaché à la question du droit pénal, qui est une notion finalement assez multidimensionnelle, mais ça, on va l'étudier hein, tout au long de ces journées. Et puis, mon voisin, entre autres, a voulu parler du sens à donner à l'article 15 de la Déclaration des droits. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Question qui n'est pas moins complexe. Et d'ailleurs, à l'époque où nous en avons parlé pour la première fois, Pierre avait déjà dit, oui, mais le terme de sens peut avoir plusieurs sens. Ça peut être synonyme de signification, mais ça peut être aussi synonyme de direction. Bon, je pense que s'il y a des mathématiciens dans la salle, mais je crois que nos amis scientifiques sont partis.
Il en reste peut-être.
Il faudrait peut-être un distinguo subtil entre le sens et la direction, si j'ai bien compris. Ça n'est pas du tout la même chose. Enfin, pour nous, peut-être que si. Mais nous ne sommes pas des mathématiciens. Enfin, pas tous, en tout cas. Et puis, il y a eu un troisième courant qui était incarné par une collègue qu'on entendra aussi, Corinne Touré, qui a voulu ajouter à ça la dimension locale. Disant, souvent, quand on parle des agents publics, c'est toujours les agents publics sur le plan national, la fonction publique d'État, mais on ne parle pas beaucoup de la fonction publique territoriale. Donc, tout cela a donné, si vous voulez, cet ensemble de réflexions qui nous a conduit à vous proposer donc ce colloque, comment les responsables publics doivent-ils répondre de leurs actes. Alors, cette genèse rapidement exposée, je voudrais peut-être maintenant expliquer les problèmes que nous avons rencontrés déjà pour cerner la problématique, dire au fond quelles sont les questions qui vont nous retenir. D'abord, il y avait des problèmes sémantiques à résoudre. D'abord, pourquoi est-ce qu'on a choisi le terme de responsable public, sur lequel on peut effectivement s'attarder. Parce qu'à l'évidence, le terme de responsable public n'appartient pas au registre juridique. Fait partie de ces termes qu'on utilise dans différents domaines, mais en droit, le terme de responsable public n'est pas parfaitement clair. Alors, je précise d'emblée que nous ne sommes pas allés chercher notre inspiration chez les Shadocks, C'est une série télévisée d'animation que nos amis étrangers et nos amis français de moins de 30 ans et peut-être même moins de 40 ne peuvent pas connaître. Je vous dis tout de suite que ça date effectivement de 1968 et donc ça fait déjà un demi-siècle. C'est très loin. Les Shadowhunters, c'était des sortes d'extraterrestres plus ou moins anthropomorphes, enfin qui ressemblaient aussi à des oiseaux assez disgracieux. Mais ce qui nous intéressait, c'était leur Weltanschauung, c'est-à-dire leur conception du monde. Le monde était divisé en deux, les responsables et les imbéciles. Donc évidemment, avec un choix comme celui-là, on est obligé de choisir le mot de responsable. Bon, évidemment, je précise tout de suite que, surtout à nos collègues étrangers, que nous sommes quand même un peu plus sérieux, mais nous faisons quand même des détours quelquefois vers l'imagerie comme celle-là, car c'était une série, je le précise au passage, je n'ai pas de pourcentage sur les reproductions de cette série d'animation, mais c'était une série qui posait beaucoup de problèmes intellectuels malgré les apparences. Alors évidemment, on se demandait, puisque nous voulions traiter à la fois l'agent public au sens que le droit de la fonction publique donne à ce terme, et les élus, on se demandait comment arriver à un concept un peu unificateur. Alors, c'est une question, effectivement, qui nous a beaucoup préoccupés, parce qu'au début, on voulait que le colloque s'intitule, nous calquant sur l'article 15 de la Déclaration des droits, comment l'agent public doit-il répondre de ses actes. Doit-il même rendre des comptes? J'y reviendrai. Mais c'est là que nous avons été un peu piégés, parce qu'on s'est dit, mais si nous mettons agent public, on va immédiatement penser au sens que le droit de la fonction publique donne à ce terme, et je parle en présence de spécialistes du droit de la fonction publique, il y en a au moins un ici, probablement même plusieurs. Et c'est vrai que les agents publics, comme l'a dit notre maître René Chaput, sont des personnels qui, occupant à titre professionnel un emploi salarié dans les services des personnes publiques, sont soumis à un statut public. Les élus ne sont pas considérés en droit français comme des professionnels. On peut critiquer d'ailleurs, parce qu'ils ont un régime juridique qui ressemble beaucoup à des professionnels, enfin celui dont certains professionnels peuvent revendiquer l'existence. Mais enfin, c'est vrai qu'ils perçoivent une indemnité et non pas un traitement ou un salaire. Partant de là, on en est resté à l'idée qu'il n'y avait pas de professionnels chez les hommes politiques et les femmes politiques. Évidemment, c'est un peu contraire à la sociologie, puisqu'on sait qu'il existe, et depuis longtemps, des professionnels de la politique. Enfin, on ne voulait pas, justement, sombrer dans cette ambiguïté dont la sémantique est assez complexe. Et donc, on s'est dit, tant pis, nous allons utiliser le terme de responsable, malgré peut-être l'imprécision que cela peut représenter. Ce qui nous permettait d'englober. Et nous sommes partis également du principe que dans l'article 15, bon, nos amis vont peut-être en parler, le mot agent public était peut-être un peu plus large que celui du droit de la fonction publique et peut-être qu'il englobait aussi les élus. Alors comment doivent-ils répondre de leurs actes? Là aussi, nous avons eu une petite hésitation relative au titre. Comment l'agent public doit-il rendre des comptes? Voilà ce que nous avions pensé au départ. Alors pourquoi parler de... Pourquoi changer? Pourquoi dire répondre de ses actes? Alors, je crois que là, nous avons... Alors, on va nous dire, oui, vous avez voulu faire du politiquement correct. Ou comme nous disions avec mon ami Anthony, passer notre titre à l'obscurcisseur. Oui, nous nous appelions passer à l'obscurcisseur une façon, si vous voulez, de convertir notre français en langage administratif pour que le ministère comprenne ce qu'on lui disait. Donc on s'est dit un peu, on va faire la même chose, alors peut-être qu'on a voulu faire du politiquement correct. Et c'est vrai que nous avons pensé que si nous invitions les élus, leur demander encore, dans le contexte actuel, de rendre des comptes, ça avait un peu l'air de les soumettre à un tribunal populaire. Bon, la censure permanente des médias, des réseaux sociaux, etc. C'est peut-être pour ça, au départ, que nous avons abandonné la formule « rendre des comptes » pour aller au-delà. Et d'ailleurs, en y réfléchissant, je pense que l'expression « répondre de ses actes » va au-delà du registre juridique qui est induit par la reddition de comptes, pour atteindre peut-être aussi un autre registre que nous voulions justement traiter, le registre de la déontologie. Et ce n'est pas le référent déontologue que je suis qui va dire, qui va s'opposer, si vous voulez, à cette évolution. Alors, quant au fond, ces problèmes sémantiques étant un peu traités, même de façon un peu rapide, sans doute, notre sujet est bien celui que l'on appelle aujourd'hui la redevabilité. La redevabilité des responsables publics. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu la traduction, enfin, c'est une des traductions de l'anglais « accountability » que rappelait Étienne Picard tout à l'heure. C'est vrai que les Anglais ont un nombre de mots pour dire « responsabilité » qui est extrêmement important. Bon, « liability »,« responsibility »,« responsiveness », même, enfin, tout un ensemble de termes, alors que nous nous contentons souvent d'un mot « responsabilité », mais ici, on pourrait dire « redevabilité ». Alors, c'est vrai que le concept de redevabilité a surtout été étudié par les politistes, enfin, les chercheurs en sciences politiques ou les chercheurs en sciences administratives. Assez souvent anglo-saxons, pas uniquement, mais assez souvent. Ah oui, j'avais trouvé d'ailleurs une définition de Mark Bovens, qui n'est pas du tout anglo-saxon, lui, qui est originaire des Pays-Bas, et qui avait dit « Qu'est-ce que la redevabilité ? C'est une relation, un mécanisme social spécifique entre un acteur et une instance dans laquelle l'acteur est tenu d'expliquer et de justifier sa conduite, où l'instance peut poser des questions et émettre des jugements, et l'acteur faire face aux conséquences de cela. » Cette définition, effectivement, elle paraît multidimensionnelle. Et même si, assez souvent, elle est étudiée sous l'angle financier. D'ailleurs, l'expression « reddition de compte » hein, nous induit immédiatement à une réflexion sur la redevabilité financière. Il y a eu, en 2016, un excellent colloque qui a été organisé à l'ENA, l'École nationale d'administration, et ce colloque, qui a d'ailleurs été publié à la Revue française d'administration publique quelques mois plus tard, hein, c'est le numéro 160 de 2016, ce colloque était intitulé « Rendre des comptes, rendre compte ». Déjà, on voyait qu'il y avait un flottement sémantique que les auteurs avaient voulu pour montrer que ce n'était pas si facile de savoir ce que l'on allait dire, mais il est vrai que le contenu du colloque montre bien que c'était quand même surtout ces questions qui ont été traitées sous l'angle donc financier de la responsabilité financière. Alors c'est parce que peut-être, comme l'a dit d'ailleurs la personne qui a introduit ce colloque, François Lafarge, parce que le recours aux chiffres est un moyen relativement aisé de représenter une réalité. Bon, je sais que notre ami Alain Supiot ne pense pas tout à fait la même chose. Hein. Et je vous recommande d'ailleurs sa lecture, si ce n'est déjà fait, de son ouvrage « La gouvernance par les nombres », où il montre que justement, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Donc la notion de redevabilité des responsables publics, c'est donc une notion peut-être un peu élastique. On le verra au cours de ce colloque, hein, une notion qui flirte avec la notion de responsabilité, qu'elle soit politique ou pénale, qu'elle tente à englober, plus ou moins. Ça pose évidemment la question des instances de redevabilité. Est-ce que ce sont les juridictions? Est-ce que c'est le Parlement, comme l'avait dit Benjamin Constant déjà il y a un certain nombre d'années? Est-ce que c'est le peuple? Est-ce que ce sont les médias, l'opinion publique, les réseaux sociaux? On a bien vu qu'aujourd'hui, il y a un certain flou, même dans l'imaginaire de la société actuelle. Parce que quand on demande à quelqu'un de rendre des comptes, souvent on ne va pas devant la justice, on va devant une caméra ou devant son ordinateur sur un réseau social quelconque. Ce sont donc des questions qui sont extrêmement sérieuses, la question des instances de redevabilité, et j'espère que nous en apprendrons plus pendant ces deux jours, pendant tout ce colloque. Bon, vous noterez au passage qu'on ne s'est pas posé la question du pourquoi, mais la question du comment. Mais il est vrai que la question du pourquoi ne se pose pas vraiment. Dans une démocratie, on ne concevrait pas que ceux que nous avons appelés les responsables publics n'aient pas à répondre de leurs actes. Et l'article 15 de la Déclaration des droits est justement là pour nous le rappeler. Donc c'est de cette notion complexe de redevabilité qu'il va être question, directement, indirectement, plus ou moins, lors de ce colloque, aussi bien dans le droit français que dans de nombreux droits étrangers. On l'a rappelé tout à l'heure, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, le droit anglo-saxon. Comme ce sera du droit anglo-saxon, nous aurons à inaugurer là une visioconférence, car la personne qui va traiter de cette question, malheureusement, ne peut pas se déplacer. Et puis, il y a évidemment le droit chilien, le droit colombien, le droit japonais, tout un ensemble de droits, sans doute d'origine différente, mais qui vont peut-être converger vers des conclusions qui ne seront peut-être pas aussi différentes que cela. Donc, vous l'avez constaté en lisant le programme, je ne vais pas y revenir, nous avons choisi de diviser cette étude, cette recherche en quatre thématiques qui vont se déployer donc en quatre demi-journées, le cadre, les responsabilités, les sanctions et les limites. Je voudrais terminer cette brève présentation par une réflexion personnelle, peut-être une réflexion pour Jacques finalement. Dans notre société d'hyper-individualisme, celle de l'individu total, uniquement tourné vers l'épanouissement personnel, réclamant toujours plus de droits individuels sans rien devoir en échange. Comme l'a dit très justement l'historien philosophe Marcel Gaucher dans son ouvrage La condition historique. Un individu qui n'aime rien tant d'ailleurs que l'agglutination grégaire, comme je l'appelle, dans des collectifs immatériels, vous savez, les forums et autres, et qui demande en permanence des comptes, finalement, aux responsables publics, ma question serait, envers qui le citoyen est-il redevable? N'y aurait-il pas une question là à se poser? Vous savez, ça nous rappelle un peu la formule du président Kennedy qui avait dit, avant de savoir ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Envers qui le citoyen est-il redevable? Je reconnais que ce serait là, mon cher Jacques, l'objet d'un autre colloque. Je ne sais pas si c'est nous qui l'organiserons, mais tu seras peut-être dedans. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention.
Merci Christian. Je passe la parole maintenant directement à M. Bouzet.
Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Doyen, merci chers collègues, merci à toutes et tous. J'étais en train de noter ma conclusion. Je pense à un beau titre de colloque futur, cher Christian, sur ce que j'appelle la responsabilité civique, on en parlera tout à l'heure. Je pensais aussi, et c'est l'avantage de ne pas parler en premier, c'est qu'on puise dans le discours de nos collègues de l'attaque, de la matière à réfléchir et à présenter les choses. Je pensais, il paraît que les Inuits ont une dizaine de mots pour décrire la neige. Et quand je dis une dizaine, c'est parce que je ne parle pas Inuit. Je veux dire par là que manifestement, on ne nomme bien que ce qu'on connaît bien, et le fait qu'on ait si peu de noms, nous, pour la responsabilité, est très 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 révélateur. Mais je ne voudrais pas perdre trop de temps, parce que j'ai énormément de choses à vous dire. Vous savez qu'un de mes penchants, c'est le débordement, et je vais essayer de me tenir au raisonnable, ne serait-ce que par respect pour notre ami Paul. Il nous manque un mot, ne serait-ce que dans l'intitulé lui-même. Vous connaissez toutes et tous par cœur l'article 15, hein, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, mais ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer quel sens peut-on donner maintenant à l'article 15. Le premier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est une démarche qui est positive, qui est même prospective. Pour le dire autrement, je vais laisser à notre ami Paul le soin de vous parler de la constituante, dont je me moquerai éperdument, pour une raison très simple. C'est qu'il me semble qu'il s'agit pour nous de travailler sur du droit positif, sur ce que disent les juges, ce qu'ils viennent de dire, ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils diront. En d'autres termes, mon affaire n'est pas de connaissance, mon affaire est de pure volonté. Je crois beaucoup à la puissance de la parole du juge. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, je suis intimement persuadé depuis maintenant 4 ou 5 ans, Christian remontait à la fin 2014, moi, ma révélation, c'est 2015, mais on est à peu près dans les mêmes eaux. Je crois vraiment très sincèrement, d'autant plus que je ne suis pas le seul, que cet article 15 est une véritable mine. Je veux dire par là que d'un point de vue contentieux, d'un point de vue même théorique, il peut avoir le même avenir que celui qu'on a vu avec l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous vous souvenez, la garantie des droits et la séparation des pouvoirs, dont le Conseil constitutionnel notamment déduit mais une foultitude de règles, de principes, d'exigences et de contraintes. Une mine qui tient à mon sens, et je rebondis sur les propos de Christian à l'instant, qui tient à mon sens à l'époque et à deux éléments de notre époque. Le premier, c'est la crise sociale de la démocratie, qui pousse très clairement à la redevabilité, qui pousse très clairement à la responsabilité, qui pousse très clairement à trouver des réponses. Et le second, on n'en a pas encore parlé, c'est le succès social de la question prioritaire de constitutionnalité, de la QPC, de notre contrôle a posteriori, qui pousse à l'invocabilité, qui pousse à l'imagination, qui pousse à l'invention, qui pousse à chercher un sens nouveau, des sens nouveaux, dans l'article 15. Et quand on travaille un petit peu sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, c'est extrêmement révélateur. Pendant des années, le Conseil constitutionnel s'est contenté, si j'ose dire, de l'évident, de ce qui ressort de l'article 15. Il s'est contenté de la redevabilité financière. Il voyait dans l'article 15 la redevabilité financière, il y voyait un des fondements de la sincérité budgétaire. Et puis il y a un tournant à partir de 2010, c'est-à-dire à partir de la naissance de la QPC, où on voit l'article 15 servir, ça n'est plus le cas depuis 2018-2016, mais servir à la bonne administration de la justice, par exemple. La bonne administration de la justice va être utilisée comme un concept sortant de l'article 12, de l'article 15, etc. etc., etc. Et depuis 2015, depuis la QPC 471 du 29 mai 2015, c'est l'affaire, peut-être certains d'entre vous, certaines et certains s'en souviendront-ils, c'est l'affaire NKM, l'affaire de la Tour Triangle à Paris. Le Conseil constitutionnel a consacré l'invocabilité directe de l'article 15 en considérant donc qu'il s'agissait bien d'un droit ou d'une liberté invocable en QPC. Alors, en l'occurrence, pour dire qu'il ne s'appliquait pas au mode d'organisation des scrutins des conseils municipaux, qu'il n'exigeait pas ou qu'il n'interdisait pas que le scrutin, on y reviendra, soit secret, mais l'article 15 est bien invocable. 18 mois après, c'est la fameuse QPC du 2 décembre 2016, là, j'oublie toujours son numéro, la 599 du 2 décembre 2016, qui fonde sur l'article 15 l'exigence de responsabilité financière, en l'occurrence, c'est la compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière. Et puis, il y a cette fameuse décision dont vous vous souvenez sans doute dans l'affaire des archives de l'Élysée à propos du génocide au Rwanda, c'est la QPC 655 du 15 septembre 2017 qui consacre le fait que le droit d'accès aux archives publiques s'appuie, est issu, est fondé sur l'article 15. Et ça, ça montre bien, j'en viens là à mon troisième élément, ça montre bien comment il faut, Christian avait des réticences tout à l'heure. Combien il faut se départir d'une vision que j'appellerais administrativiste. Si j'étais un peu provocateur, mais c'est vrai, ceux qui me connaissent que ça n'est pas dans ma nature, je dirais étroitement administrativiste. Une vision administrativiste qui voudrait que l'agent public ne soit que le fonctionnaire. En vérité, ce que prouve parfaitement le Conseil constitutionnel, c'est que dans agents publics, il y a les gouvernants, il y a la présidence de la République, en l'occurrence dans notre dernière QPC, ce sont les archives de l'Élysée, et qu'il faut bien entendre très largement l'article 15, bien au-delà de la fonction publique. En témoigne également, je n'irai pas très loin dans cette direction-là, mais en témoigne également la jurisprudence de la Cour de cassation. Vous vous souvenez peut-être de la décision du 27 juin 2018, il y a un an et demi maintenant, c'est l'affaire de l'Union républicaine du Sénat, sous une espèce de caisse des sénateurs. La Cour de cassation, la chambre criminelle, a rappelé qu'un parlementaire était redevable, qu'on ne pouvait aucunement considérer que la fonction législative couvrait les actes des individus. On le reverra très certainement d'ailleurs, on en reparlera sans doute durant ces deux jours, on le reverra très certainement avec l'affaire Fillon qui va être jugée au mois de février-mars prochain. C'est la problématique de l'article 15. Alors, ça, je pense qu'il faut qu'on l'ait bien présent à l'esprit parce que si l'on analyse l'article 15 comme débordant de la fonction publique, comme couvrant les gouvernants en général ou les parlementaires, ça veut dire qu'on peut aussi le penser comme couvrant, et je vous en donnerai des exemples, comme couvrant le futur agent public, comme couvrant le candidat. Comme couvrant le candidat, mais du coup, on peut penser aussi au candidat au concours de la fonction publique. Alors, l'exemple que j'ai en tête, vous en doutez, c'est l'exemple de la probité. On peut demander à un futur ministre de prouver sa probité, on peut demander à un candidat à l'élection présidentielle, par exemple, de prouver qu'il n'a pas manifesté dans les règles du financement de la vie politique quelques délicatesses. Laissons cela, nous y reviendrons. Ça veut dire qu'à mon sens, il y a une notion constitutionnelle d'administration de l'article 15 qui n'est évidemment pas celle de l'article 20, dont dispose l'administration, dont dispose le gouvernement, qui va au-delà, qui couvre la fonction exécutive assurément, peut-être pas la fonction législative dans sa globalité. Je veux dire que je vois mal l'article 15 fondant le référendum, le veto populaire sur la loi. En revanche, on pourrait parfaitement envisager que l'article 15 fonde, et on en reparlera, le référendum révocatoire, le recall américain, le rappel de l'élu. Entendons-nous bien, s'il y a prescription constitutionnelle, il peut y avoir exception constitutionnelle. Une, pour nous, est tout à fait considérable, c'est le principe de l'interdiction du mandat impératif qu'on pourrait opposer à la révocation, au recall. Là encore, on y reviendra. Ça ne veut pas dire, c'est mon quatrième point, qu'il y aurait n'importe quoi dans l'article 15. Le Conseil constitutionnel en 1997 dans l'affaire des fonds de pension, le Conseil d'État l'année dernière, c'est un arrêt du 30 mai 2018 à propos de la suspension d'un collègue, d'un enseignant-chercheur. Pas Tourangeau et pas juriste, je vous rassure. Tous deux ont dit que ces questions-là étaient, je cite, « sans rapport avec le principe de l'article 15 ». Ce qui est intéressant, et là encore on y reviendra, c'est cette manière dont on circonscrit son champ et dont on exclut l'idée. Mais il reste qu'il y a donc à la fois des exigences et un principe dans l'article 15. Exigences et principes, c'est-à-dire un catalogue qui, à mon sens, est encore en chantier et il nous appartiendra de le nourrir. Alors, ce principe, deux mots encore dans cette introduction, ce principe, il me semble que sa caractéristique essentielle, c'est sa réflexivité. Parce que demander compte, c'est rendre compte. Il y a toujours, je vous le redirai, un débiteur et un créancier, un bénéficiaire de ce qu'on a appelé la redevabilité. Je vous proposerai, pour ce principe, j'avais peur que le professeur Picard ait eu l'idée avant moi, je vous proposerai un néologisme, je vous proposerai de parler de principe de répondance. Répondance, d'abord parce que ça n'existe pas, qui ne sera pas tout à fait la traduction de l'accountability. D'abord parce que si l'anglais était traduisible, ça se saurait. Ensuite, parce que je ne voudrais pas que l'on y voie une trahison. Il me semble que dans cette idée de répondance, il y a ce qui pour moi constitue les deux jambes de l'article 15, la responsabilité, je devrais dire les responsabilités, mais il y a bien évidemment d'abord la transparence, ne serait-ce que parce que nos juges l'ont dit. J'ai hésité longtemps à vous proposer de parler de répondance exclusivement à l'endroit de la responsabilité. Il me semble que la répondance est d'abord, et je vais y venir, d'abord dans la transparence. Transparence au singulier, responsabilité au pluriel, voilà ce dont je voulais vous entretenir, même si je le ferai certainement plus vite que je ne l'aurais souhaité. La transparence, c'est d'évidence, ne serait-ce là encore parce que nos juges l'ont dit, c'est d'évidence d'abord le droit de savoir. Le droit de savoir, vous savez sans doute, est une expression fameuse consacrée par Guy Brébant il y a déjà 40 ans, au sujet des lois de 78-79. Le droit de savoir, c'est aussi, et attention à ce type de subtilité, le devoir de dire. Il y a donc d'abord droit de savoir et devoir de dire qui sont, je parlais de réflexivité tout à l'heure, qui sont les deux faces d'un même sujet. J'ai beaucoup hésité, mais à y réfléchir, je pense qu'il faut mettre en parallèle ce devoir de dire et ce droit de savoir avec ce qu'on peut appeler le devoir de taire. Le devoir de taire qui serait aussi le droit de cacher. Au fond, ce qui m'est apparu à travailler sur ce thème et à travailler sur la jurisprudence, à travailler sur le sens qu'on pourra donner à l'article 15, c'est que s'il y a une transparence, il y a aussi un secret, et j'y reviendrai ensuite. Alors, le droit de savoir, très rapidement, et je vais verser dans l'énumération, le droit de savoir, c'est évidemment la publicité, ce peut être aussi la participation des citoyens. L'année dernière, le Conseil d'État a fait un rapport sur la citoyenneté, le rapporteur adjoint a parlé de l'article 15 comme fondement de la participation des citoyens, voire de l'enquête publique. Une interview passionnante dans la JDA d'octobre 2018 à cet égard. C'est la publicité, c'est aussi l'alerte administrative. Administrative parce que, évidemment, je ne pense pas aux entreprises, je pense à l'administration. Alerte administrative, si l'on y réfléchit une seconde, le droit d'alerte tel qu'il a été consacré par la loi de 2016 et par la directive européenne, le droit d'alerte c'est quoi sinon un défaut de répondance? On va vers les autorités supérieures, si l'autorité ne répond pas, on va trouver, etc., jusqu'au public lui-même. Toujours cette idée-là. Bien entendu, vous l'aurez compris, je ne suis pas convaincu que l'article 15 fonde directement le droit d'alerte, mais je pense qu'il pourrait fonder le reproche de ne pas avoir alerté quand on en avait le devoir. Et on en reparlera bien évidemment, cette réflexivité ou ce jeu sur droit et devoir est tout à fait important. Alors, on s'entend bien, c'est la publicité, ça n'est pas que la publicité, ce peut être aussi l'évaluation, je n'y reviendrai pas. Ce peut être la gratuité. La tentation serait grande d'en reparler de la gratuité. Il y a eu le mois dernier une décision fameuse du Conseil constitutionnel, mais totalement hors sujet. Gratuité que le Conseil constitutionnel a consacrée en 2015 au moment où on a dématérialisé le journal officiel. Il a expliqué que ça n'était pas contraire à la Constitution parce que le JO restait de manière permanente et gratuite à la disposition des citoyens. Donc, on est bien là dans une exigence qui, à mon sens, relève de l'article 15. Évidemment, la motivation des décisions administratives. On pourrait même aller au-delà de la loi de 79 et considérer qu'il y a une exigence générale de motivation des décisions administratives, pas seulement de la décision défavorable. Pourquoi pas? Voilà ce qu'on pourrait déduire de l'article 15. Bien entendu, il faudra, au sujet de la motivation, distinguer le dire à tous et le dire à qui le demande. Je pense, et je me tourne vers certains de mes collègues et amis, je pense à la transparence budgétaire. Transparence budgétaire, c'est le dire à tous. En revanche, le droit d'accès aux documents administratifs, c'est le dire à qui le demande. Ce droit d'accès, peut-être ne l'avez-vous pas vu passer, mais il y a un arrêt Association Regards Citoyens du 27 juin dernier du Conseil d'État, un arrêt très très intéressant qui identifie le droit d'accès comme une mise en œuvre de l'article 15. Alors, de l'article 15, et pour être tout à fait honnête avec vous, également de l'article 11, ce qui lui permet de dire que la question de la constitutionnalité n'est pas sérieuse et de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel, mais l'article 15 sert, vous le voyez très bien. Quant aux archives publiques, songeons à l'affaire Aristophile, vous souvenez de cet arrêt d'Assemblée du Conseil d'État, 13 avril 2018. Si vous relisez les conclusions du rapporteur public d'Édouard Crépet, qui ont été publiées à l'RFDA, elles sont passionnantes. Il dit très bien qu'il y a deux raisons à cette solution, puisque le Conseil d'État, si j'ose dire, a osé, le Conseil d'État a expliqué que la loi de 79 sur les archives s'inspirait d'un principe bien antérieur, qu'elle n'était en quelque sorte que recognitive, la loi de 79. S'il le fait, le Conseil d'État, c'est en s'appuyant et sur l'article 15, Édouard Crépet parlait de la promesse de l'article 15, j'adore ce mot, et sur la décision du Conseil constitutionnel de septembre 2017. Donc ça bouge. Alors, il resterait sans doute, et à mon sens, il y a une exigence qui nous manque, c'est l'obligation de dépôt aux archives. Entendons-nous bien, l'obligation de dépôt aux archives n'est évidemment pas une conséquence logique du droit d'accès aux archives. On peut n'avoir un droit à accéder que ce qui est aux archives. C'est pas tout à fait la même chose. Et si je vous parle de cette éventuelle obligation de dépôt, c'est parce que, et vous l'aurez compris dans une seconde, c'est parce que je me suis surtout demandé ce qui pourrait empêcher sa reconnaissance. Qu'est-ce que le juge, les juges, qu'il s'agisse du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel, pourraient objecter à une prétention à l'obligation de dépôt? Vous voyez une future QPC, quelqu'un qui montrait une association fictive. Bon. Je n'ai trouvé, alors, du point de vue juridique, hein, du point de vue psychologique, du point de vue stratégique, tout ce que vous voulez, évidemment, il y a des tas de raisons, mais du point de vue juridique, je ne vois qu'un seul argument, c'est la séparation des pouvoirs. Séparation des pouvoirs dont vous savez que le Conseil constitutionnel la comprend à l'envers, on pourra là encore en reparler, et dont vous vous souvenez peut-être que le Conseil d'État l'avait objecté dans l'affaire du fameux décret Valls sur l'inspection du judiciaire et de la Cour de cassation, l'avait objecté à la soumission au gouvernement et à l'inspection administrative des magistrats de la Cour de cassation. C'est l'arrêt FO magistrat du 23 mars 2018. Et on en vient là donc, avec ma séparation des pouvoirs, telle que nos juges la comprennent, au devoir de taire. Devoir de taire, c'est évidemment la protection de la nation, c'est aussi le droit de cacher. C'est-à-dire que c'est le secret, c'est-à-dire la possibilité de taire. Je ne vais pas rentrer dans un débat philosophique pour savoir si taire, c'est mentir ou pas. On en parlera sans doute, mais en tout cas, on a la possibilité de ne pas mentir en taisant, parce que vous le savez, dire peut nuire. Je pense à l'arrêt Marine Le Pen de l'été dernier, dans lequel le Conseil d'État a consacré cette idée sur laquelle la publicité pouvait faire grief. Secret au sens large, parce que il faut bien entendu réserver l'hypothèse, et là encore on en reparlera certainement pendant ces deux jours, du respect de la vie privée. La vie privée, elle n'est pas proprement parlée secrète, alors à part la mienne, mais la vie privée, elle est surtout non publique. La vie privée, c'est quelque chose simplement qu'on a le droit, le pouvoir de cacher. Si l'on compare et si l'on revient aux décisions du Conseil constitutionnel sur les lois de moralisation de la vie politique, la décision de 2017 et surtout la décision de 2013, elle est très intéressante. Vous vous souvenez qu'il y a eu et des réserves d'interprétation et des censures à l'endroit de la publicité accordée aux activités professionnelles des enfants, des parents, au patrimoine des élus, au patrimoine même aux déclarations d'intérêt des agents locaux, des exécutifs locaux, des agents locaux, etc. Il y a toute une série de réserves, de censures qui tiennent au respect du secret. Alors évidemment, c'est pas toujours facile de faire le partage entre ce qui est un devoir, le devoir de taire, et le droit de cacher. Relisez la décision du 15 septembre 2017, la QPC sur les archives, le Conseil constitutionnel parle à la fois là de, je cite, de la protection particulière des archives parce qu'elles peuvent comporter des informations susceptibles de relever du secret des délibérations du pouvoir exécutif et parce qu'elles peuvent aussi favoriser les règles relatives aux archives, la conservation et le versement des documents. Je ne sais pas s'il y a là une obligation ou un simple droit, une faculté ou un devoir à l'endroit de l'exécutif. Ce qui est d'évidence, en revanche, à mon sens, une faculté, un droit, c'est le scrutin secret. Le Conseil constitutionnel a dit que l'article 15 ne le concernait pas, mais on pourrait raisonner de la même manière avec le huis clos. C'est également le secret même des délibérations parlementaires. Je pense à ce fameux comité secret de l'article 33. Ça fait partie des quelques dispositions qui n'ont jamais été appliquées, les dispositions de la Constitution de 58. Mais il y a là un autre principe constitutionnel qui l'avalise. Cette problématique, en vérité, me fait penser à deux autres questions. La question de la fonction juridictionnelle et la question de la fonction exécutive. En d'autres termes, est-ce qu'il n'y aurait pas une obligation au secret? Si vous prenez la tradition française, dans la fonction juridictionnelle, on est tenu de se taire. C'est pas seulement un devoir, c'est une obligation juridique, sanctionnée, etc. Je pense en particulier, pour ne pas rentrer dans un débat un peu plus long, mais je pense en particulier aux opinions dissidentes. Qu'est-ce que c'est que l'interdiction traditionnelle française des opinions dissidentes, sinon l'obligation de se taire et le devoir du secret, alors pour des raisons un peu particulières, mais sur lesquelles on pourra revenir. Plus intéressant, et là encore je pense qu'on en reparlera, c'est la fonction exécutive. Je pense notamment à deux affaires récentes auxquelles Benjamin Laverne tout à l'heure faisait allusion. Je pense à la condamnation de Jean-Jacques Urvoas, le garde des Sceaux, le mois dernier, le 1er octobre, par la Cour de justice de la République. Vous vous souvenez que Jean-Jacques Urvoas n'a pas été condamné pour violation du secret de l'instruction, on ne l'a pas reproché, mais pour violation d'un secret quasi-professionnel. Je dis quasi parce que, étant ministre, ce n'est pas une profession. Mais il a été condamné pour violation du secret. Voilà un cas tout à fait passionnant. Second cas que vous avez peut-être oublié, c'est la tentative de destitution du président Hollande en novembre 2016. Alors on en a peu parlé parce que c'était une semaine avant qu'il annonce qu'il ne se représentait pas à l'élection présidentielle et si j'avais mauvais esprit, je dirais que l'affaire a fait pchit. Mais ce qu'on a reproché, c'était les députés républicains, ce qu'on a reproché au président Hollande, c'est d'avoir méconnu son devoir de se taire dans le cadre du secret défense, en particulier à l'endroit des opérations Homo et ce fameux livre, vous vous souvenez, signé, co-signé par Gérard Davé et Fabrice Lhomme, un président ne devrait pas dire ça. Il y a eu une tentative de destitution comme manquement à ses devoirs. Laissons cela. Mais tout de même, je vois là une vraie obligation constitutionnelle, une vraie obligation de se taire, c'est le secret de défense. C'est le secret de défense si on étudie la jurisprudence du Conseil constitutionnel à l'endroit de protection des secrets de la défense nationale, eh bien ça fait 10 ans que de manière constante, il y voit une obligation constitutionnelle. Il y a 2 décisions sur le règlement des assemblées de 2009, il y a une QPC de 2011 qui est intéressante parce qu'il utilise la charte de l'environnement. Avec l'expression « protection des intérêts fondamentaux de la nation » qui n'a été écrite dans la Constitution qu'à ce moment-là. Référence à la Charte de l'environnement qui a ensuite disparu dans les années 2015-2016. Et le Conseil constitutionnel aujourd'hui n'utilise plus qu'une référence aux articles 5, 20 et 21 de la Constitution, c'est-à-dire les obligations administratives au fond de l'exécutif. Mais on voit bien l'idée « protection des intérêts fondamentaux de la nation ». Ça veut dire... Et voilà déjà 2 conclusions provisoires. Ça veut dire, primo, qu'à mon sens, il y a dans l'article 15 la protection du secret légitime. Alors on peut se disputer, j'espère qu'on se disputera sur la définition du secret légitime, bien sûr. Mais ça, j'y vois non pas une exception à l'article 15, mais une mise en œuvre, c'est-à-dire véritablement une déclinaison de la chose. Second point, vous avez compris que transparence, dire... savoir et responsabilité sont les deux faces d'un même problème. L'affaire des archives de l'Élysée, c'est tout le problème de la responsabilité pénale des services présidentiels dans le génocide au Rwanda. Là, autre exemple classique, la publicité des travaux préparatoires de la Constitution de 1958 qu'on a conservé pendant des années parce qu'il en allait de la responsabilité politique. Au fond de l'exécutif, du général de Gaulle, du gouvernement Debré, etc., etc., etc. Ce sont les deux faces d'un même principe. Ce que j'appelle répondance, ce sont les responsabilités. Je vais essayer d'être plus rapide, pardonne-moi Paul, plus rapide sur les responsabilités parce qu'on en reparlera beaucoup. Il y a deux idées principales sur lesquelles je voulais revenir à l'endroit de l'obligation de rendre des comptes. Deux idées principales, mais qui au fond se résument à une seule. C'est, et le professeur Picard en parlait très bien tout à l'heure, c'est leur pluralité. On ne peut pas penser les responsabilités de manière isolée, de manière cloisonnée, de manière distincte. Tout est dans tout, si j'ose dire. Ça suppose d'analyser la question de la nature des responsabilités, et les responsabilités d'un point de vue constitutionnel sont et ne peuvent être qu'au nombre de quatre. Il y a la responsabilité civile, il y a la responsabilité pénale, la responsabilité politique, bien entendu. Tout le reste, je vous le redirai, c'est de la responsabilité disciplinaire. Alors disciplinaire, pas au sens de la fonction publique, pas au sens du droit du travail, bien sûr. Mais ça suppose aussi un très rapide panorama, d'abord, de ce champ de l'obligation de rendre des comptes. Panorama qui ne sera que l'exposé d'une série de perspectives dont j'aimerais que nous puissions rediscuter pendant deux jours. Ce que j'aimerais, c'est que nous puissions nous disputer. C'est le premier point, c'est le champ de l'obligation de rendre des comptes. Je vois quatre perspectives. La perspective matérielle, la perspective personnelle, la perspective temporelle et la perspective fonctionnelle. Je vais être rapide, ce ne sont que des pistes. Perspective matérielle, c'est extrêmement simple. Pour moi, le champ de l'article 15, c'est toute l'administration au sens plein du terme, au sens noble du terme, c'est tout le champ du service public et de l'ordre public. Alors, ordre public, on peut décliner, je pense à l'ordre public financier, mais c'est tout ce champ-là. En revanche, il me semble qu'on peut, voire qu'on doit en exclure la chose militaire. La chose militaire, je parlais de jurisprudence du Conseil constitutionnel tout à l'heure, il y a d'autres décisions, et pour laisser la jurisprudence de 2015, je pense notamment à une décision du 17 janvier 2019, c'est l'affaire, vous vous souvenez, de la mort de Rémi Fraisse au barrage de Sivens. Le Conseil constitutionnel a utilisé l'argument de la particularité de l'état militaire. Je pense donc qu'en droit positif, quoi que nous en pensions nous-mêmes, l'article 15 ne couvre pas la chose militaire. Perspective personnelle, c'est l'idée selon laquelle il y a à la fois un droit individuel à la répondance collective, un devoir individuel à la répondance collective, devrais-je dire, un droit individuel au savoir, mais il y a aussi une forme de responsabilité collective ou de responsabilité pour autrui. Je serai très rapide là-dessus. Très rapide là-dessus, parce que je voudrais qu'on en reparle, mais je pense à trois éléments. Premier élément, Véronique nous en parlera peut-être, c'est cette décision de janvier 2018, cette décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation refusant à l'association Anticor de se porter partie civile dans l'affaire Big Malion. C'est le nouvel article 223 du Code de procédure pénale qui a été introduit en 2013. Là, il y a quelque chose de très intéressant. Est-ce que une association anticorruption, c'est la société? Est-ce que c'est une association qui peut se prévaloir de l'article 15? Premier point. Deuxième point, la question personnelle est évidemment la question de la responsabilité pour autrui. Alors, c'est la responsabilité financière, c'est la responsabilité du comptable public, bien sûr, mais c'est tout ce qui est responsabilité politique que la responsabilité pour autrui. Et c'est peut-être là qu'on retrouvera la responsabilité politique du fonctionnaire. Troisième exemple et troisième thème, c'est le scandale. Je parlais tout à l'heure de recall, du rappel, de la révocation. Vous vous souvenez peut-être du scandale des notes de frais des parlementaires britanniques il y a quelques années. On a créé dans la législation britannique la possibilité de rappeler un parlementaire. Alors, ça n'a pas été appliqué, mais il y a là une piste. Perspective temporelle, juste un mot. Il est clair que la révocation ne peut s'appliquer que pendant l'administration. Mais il est clair aussi qu'il y aura une responsabilité après l'administration, c'est évidemment la responsabilité pénale notamment, et attention qu'il peut y avoir une responsabilité avant. Je parlais du candidat, il y a là quelque chose de tout à fait important. Fonctionnel, enfin, perspective fonctionnelle, c'est extrêmement simple. C'est se demander quelle est la fonction de l'article 15, à quoi sert-il ? Si vous demandez à quoi l'article 15 sert, eh bien vous pouvez en déduire deux gros morceaux de l'action administrative. Primo, la diligence, qui est une expression qu'on utilise trop souvent que pour la responsabilité des comptables publics. Mais toute administration doit diligence. Deuxio, la négligence. Et vous vous souvenez de la condamnation de Christine Lagarde par la Cour de justice de la République en tant qu'ex-ministre de l'économie et des finances, c'était il y a 3 ans, en décembre 2016, elle a été condamnée pour négligence dans l'affaire de l'arbitrage Tapie, non pas à cause de l'arbitrage, mais pour n'avoir pas fait un recours contre la décision arbitrale. Et puis, bien entendu, ce sont les fonctions liées à la responsabilité. J'y viens en deux mots. En deux mots, pour vous dire simplement que la responsabilité, les responsabilités qu'on peut déduire de l'article 15 me paraissent toutes s'y trouver. Les responsabilités auxquelles on pense ordinairement, surtout dans une faculté de droit, c'est la réparation, la responsabilité civile, c'est la punition, la responsabilité pénale, et puis c'est la prévention qui emprunte un peu à tout cela et que l'on trouve au cœur de la responsabilité financière, mais aussi de la responsabilité politique. Je crois qu'il y a ici, pour nous, des logiques supplémentaires. La logique d'édification, c'est ce que j'appelle la doctrine du pilori. On pourra reparler de la vertu du pilori, on a oublié ce genre de choses. C'était bien le pilori, ça, pour l'édification des masses. Non, je suis le seul à penser cela. C'est également la philosophie du contrôle de gestion. Le contrôle de gestion, c'est une forme de responsabilité. C'est Jacques Chevalier qui parle de la réorientation de l'action de l'administration comme fondement de ce type de responsabilité. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, la responsabilité pour nous pourra être potentiellement déliée des formes. Je veux dire par là qu'il y a des formes extrêmement pesantes sur la responsabilité pénale, sur la responsabilité civile, je m'arrête, mais pas pour la responsabilité politique, par exemple. Et enfin, dernier mot, je termine. C'est promis. Dernier mot, je crois que la responsabilité centrale, c'est la responsabilité disciplinaire. Tout, pour nous, va être de la discipline. La destitution du chef de l'État, c'est de la responsabilité disciplinaire. La responsabilité financière, c'est de la responsabilité disciplinaire. Et au fond, on a plusieurs idées qui vont gouverner tout cela. La prééminence du soupçon, l'importance de l'idée de devoir, et puis, si j'ose dire, la jurisprudence elle-même. Alors, je vous en reparlerai, j'entends par là une idée supplémentaire qui est l'idée de responsabilité civique, mais je m'arrête, j'ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup trop parlé. Merci, chers collègues, merci à toutes et à tous.
Merci infiniment pour votre réflexion très fouillée et cette abondance d'idées.